Voilà, donc on va débuter ce cours avec l'histoire du combat que vous connaissez certainement, que Yaakov mena contre l'ange d'Ésav en traversant la rivière du Yabok. Là-bas, il mène donc un combat au cours duquel, notamment, il va prendre le nom de Israël et va cesser de s'appeler uniquement Yaakov. Et l'ange, voyant qu'il ne pouvait gagner le combat, décide finalement de le blesser au creux de la cuisse, Bekafierero. Et suite à cette blessure qui a fait momentanément boiter Yaakov, eh bien, le verset nous dit, c'est le verset que nous allons voir maintenant, que les Bnei Israël ont eu pour interdiction de consommer le nerf sciatique, le guide anaché, qui se trouve précisément au creux de la cuisse de l'animal. Alors, nous sommes Perek Lamed Bet, tout à la fin, donc dans Bereshit, Parashat Vayishlach, Perek Lamed Bet, chapitre 32, au verset Lamed Gimel, le dernier verset du chapitre, verset 33. Donc, encore une fois, le contexte est la fin du combat de l'ange avec Yaakov, où il l'a blessé au creux de la cuisse, et où le verset nous dit donc la chose suivante. Oui. Bereshit, Genèse 32-33. Lamed Bet, Lamed Gimel. Le verset dit donc, Alken lo yochlu vne Israël et guidanaché. C'est pourquoi, donc parce que Yaakov a été blessé à cet endroit-là, lo yochlu vne Israël et guidanaché, que les Bné Israël ne mangent pas du guide anaché, du nerf sciatique, Asher al-Kaf ayarer, qui se trouve au creux de la cuisse, Adayom Azé jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, nous ne mangeons pas du nerf sciatique aujourd'hui, soit des shochatim, des bouchers très professionnels savent le retirer, soit on donne carrément tout le gigot de l'animal, on le revend pour qu'il aille dans le circuit non-juif, mais on ne peut pas consommer un animal la partie d'un animal qui entoure ce nerf sciatique. Finit le verset en disant « Ki naga bekaf yerech Yaakov begidanash » car il a frappé, sous-entendu l'ange, « bekaf yerech Yaakov » dans le creux de la cuisse de Yaakov, « begidanashé » dans le guidanashé, dans le nerf sciatique, à l'endroit du nerf sciatique. Donc très clairement, le verset dit dans Parashat Vayishlach, au moment du combat entre Yaakov et l'ange, que la raison pour laquelle il nous est aujourd'hui interdit de manger, de consommer du guide anaché, eh bien, c'est parce que l'ange a blessé Yaakov à cet endroit. Alors, par rapport à cette question, à cet interdit du guide anaché, eh bien, il existe, vous vous en doutez, nombre de détails à l'arique afférents à ce sujet-là. Et nous allons en voir un maintenant qui se trouve dans une Mishnah dans Maseret Roulin, puisqu'il y a un chapitre entier du traité Roulin, qui s'occupe principalement de la consommation des animaux, un chapitre entier qui est consacré au halakhot du guide anaché, du nerf sciatique. Alors, je vous donne la photocopie ici. Vous avez ici la Mishnah dans Maseret Roulin. Nous sommes Daf Kouf Amoud Bet. Donc page 100B. Où la Mishnah se pose une question assez intéressante. La Mishnah demande, que se passe-t-il si on consomme le guide anaché, le nerf sciatique, d'un animal non cachère. Alors, Rashi a deux manières d'expliquer le débat ici dans la Mishnah. On va prendre la plus simple, de manière qu'ils sont fonction de l'opinion qu'on va suivre dans la Gemara plus tard, mais ce n'est pas le sujet maintenant. La lecture la plus simple est de savoir, si on mange un animal pas cachère, comme tout lave de la Torah, comme tout interdit négatif, sauf si c'est précisé, la punition est flagellation, 39 coups de bâton, qu'on appelle malkout. Ça, c'est quand on mange un animal pas cachère, mais quel qu'il soit, son museau, son pied, peu importe. Quand on mange du ghee d'anaché d'un animal cachère, le nerf sciatique d'une vache, dont on a fait la shrita parfaitement, eh bien, on est chayav, malkout. Aussi, flagellation, 39 coups de bâton. Donc la question est de savoir si, lorsqu'on mange le ghee d'anaché d'un animal non cachère, on est passible de deux fois 39 coups de bâton, ou bien d'une seule pour avoir consommé l'animal pas cachère. C'est le débat ici. Alors regardez ce que dit la Mishnah. Donc c'est tout en haut de la page, à la quatrième ligne, après le matni, là, l'abréviation qui signifie matnitin, notre Mishnah. Et la Mishnah dit la chose suivante. Noheg batehora. Donc l'interdit de ghee d'anaché est noheg, à court. Batehora, pour un animal pur. Ve eno noheg bitmea, mais n'a pas court pour un animal impur. C'est-à-dire que si on consomme du ghee d'anaché d'un animal kasher, pur, on est chayav, 39 coups de bâton pour avoir consommé du ghee d'anaché. Mais si on consomme le ghee d'anaché d'un animal impur, on est chayav de malkout pour avoir consommé cet animal impur, mais pas pour avoir consommé du ghee d'anaché. Ça, c'est l'opinion de Chachamim dans la Mishnah. Mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer, af bit mea. Même pour un animal impur. C'est-à-dire que l'interdit de ghee d'anaché a cours y compris concernant un ghee d'anaché, un nerf sciatique d'un animal impur. Ce qui veut dire, vous l'aurez compris, très techniquement, que pour Rabbi Yehuda, si on consomme le ghee d'anaché d'un animal non cachère, on est chayav deux fois 39 coups de bâton. Une fois pour l'animal pas cachère et une fois pour le ghee d'anaché. Et Rabbi Yehuda va donner au Chachamim un argument tout à fait valable. Voilà ce qu'il leur dit. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit au Chachamim. Ve'alo, et pourtant, Mibne Yaakov ne'esar gidanaché. Depuis les fils de Yaakov, depuis Yaakov lui-même, dans la Torah, le gidanaché a été interdit. C'est vrai, ce que dit Rabbi Yehuda, puisqu'on a vu ensemble que le pasouk qui interdit le gidanaché vient juste après l'histoire du combat entre Yaakov et l'ange. Donc depuis les enfants de Yaakov, Yaakov est à prendre au sens fort, eh bien, le ghee d'anaché a été interdit jusqu'à vita aeternam. Exactement, comme dit le verset. Très bien. Or, dit Rabbi Yehuda au Chachamim, et je continue la Mishnah, Ve'adayin be'emat meha muteret lahen. Or, à l'époque de Yaakov Avinu, à l'époque des patriarches, Matan Torah, le don de la Torah, n'avait pas encore été effectué. Donc, dit Rabbi Yehuda Chachamim, il n'avait pas l'interdit de consommer tel ou tel type d'animaux. Tout depuis la sortie de la Teva, depuis que Dieu a permis à Noé de consommer de la chair animale, tous les animaux, quels qu'ils soient, ont été permis à la consommation pour l'humanité. La distinction entre animaux cachers et non cachers ne se fera que par la suite, avec le don de la Torah au Har Sinaï. Voilà l'argument de Rabbi Yehuda. Alors qu'est-ce qu'il leur dit en réalité? Il leur dit, tu vois bien qu'au moment où le guide d'Anaché a été interdit, la distinction n'était pas faite entre animaux cachers et animaux non cachers. Donc, l'interdit du guide d'Anaché était appliqué à tous les types d'animaux, cachers ou non cachers, puisqu'à l'époque, la distinction n'existait pas. Donc, dit Rabbi Yehuda au Chachamim, c'est pas parce qu'il y a eu un truc qui s'appelle Matan Torah, qui du coup a rendu certains animaux cachers et certains animaux non cachers, que la halakha qui s'appliquait jusqu'alors, c'est-à-dire l'interdit de consommer du guide d'Anaché de tous les animaux, a été rendue obsolète. Elle existait préalablement au Har Sinaï, elle existe toujours après. Il n'y a pas eu de formatage du disque dur qui fait que toutes les lois préexistantes ont été annulées parce que, un bon jour, le bon Dieu a décidé de donner la Torah. Non, jusqu'à maintenant, dit Rabbi Yehuda, le guide d'Anaché concernait tous les animaux, ben maintenant, il concerne toujours tous les animaux. Bien sûr, la Torah est venue dire certains animaux sont cachers, certains animaux ne le sont pas. Mais depuis l'aube des temps, depuis Yaakov Avinu, le guide d'Anaché est interdit pour tout le monde et pour tous les animaux. Pour tout le monde, non, pour les bnei Yaakov, pour les enfants de Yaakov, pour nous les bnei Israël, qui s'appelle Israël à ce moment-là. Mais à partir de ce moment-là, à partir du combat, et donc il n'y a aucune raison de dire que la loi qui préexistait a été abrogée au moment de Matan Torah. Ça, c'est l'argument de Rabbi Yehuda, ici dans la Mishnah. Les Chachamim vont lui dire quelque chose qui est le cœur de notre propos ce soir. Les Chachamim vont lui répondre Amroulo, ils lui ont dit Bessinaï Nehema. Le guide d'Anaché a été interdit au moment de Matan Torah. Ah, évidemment, si tu me dis qu'il n'a pas été interdit à Yaakov Avinu, toute l'argumentation de Rabbi Yehuda tombe à l'eau. Eh bien, disent les Chachamim, c'est ce qui s'est passé. En vérité, le guide Anaché, le nerf sciatique, a été interdit au Bnei Israël uniquement à partir de Matan Torah. Yaakov Avinu et ses enfants et ses petits-enfants avaient tout à fait le droit d'en manger. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'il fiche là-bas alors? Qu'est-ce que le verset fait dans Parashat Vayishlach au moment du combat entre Yaakov et l'ange? Le verset dit bien, c'est pourquoi les Bnei Israël ne mangent pas de guide d'Anaché, à cause de ce combat. Eh bien, disent les Chachamim à Rabbi Yehuda à la fin de la Mishnah, et là, chez Nirtav Bimko. Alors là, il faut s'appliquer à bien traduire les mots parce que c'est fondamental pour notre sujet. Seulement, disent les Chachamim à Rabbi Yehuda, il a été donné au Sinaï, mais pourquoi est-ce qu'il se trouve dans Parashat Vayishlach? Chez Nirtav Bimkomo. Il a été écrit à son endroit. Voilà la traduction de la Mishnah. Nirtav, c'est un passif, un nifal, il a été écrit. Bimkomo, à son endroit, c'est-à-dire là où il est maintenant, dans Parashat Vayishlach. Qu'est-ce que ça veut dire « il a été écrit » ?
Ça nous donne le taam au moment où il y a eu l'histoire.
Oui.
C'est-à-dire, normalement, on aurait dû nous dire « il a frappé à cet endroit-là ». Rien nous dire sur la Akhila, le Issor Akhila.
Absolument.
Et une fois qu'il y a le Matan Torah, nous dire l'Otochal et Guida Lâché.
Exactement.
Mais, comme il y a eu l'histoire, on nous l'a dit d'El Chagav.
Très bien. C'est ce qu'on dit.
C'est à peu près ça.
C'est exactement ce que les Chachamim disent à Rabbi Yehuda.
Quelle est la preuve
que
ça a été écrit à cet endroit?
N'en ont pas. Ils n'en ont pas. C'est juste. C'est juste, ça demande réflexion. Les Chachamim n'apportent pas de preuve à ce qu'ils disent. Je crois qu'en vérité, la preuve n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il se pourrait qu'ils disent simplement à Rabbi Yehuda, « Toi, tu ne peux pas apporter de preuve du fait que le verset se trouve ici. » Parce qu'on peut dire comme nous. Ils ne sont pas en train de dire que la lecture est nécessairement la leur. Mais que tout au moins, Rabbi Yehuda, lui, n'a pas de preuve.
Qui a deux fois
Malkout. Les textes, ils ont des textes sous les yeux, non?
Le texte est le même que nous. Et dans Parashat Vayishlach, il y a marqué « Tu ne mangeras pas de Guidanach ».
C'est le même. Problème, alors, pour les deux, la preuve est là. Il n'a pas besoin de reciter la phrase de Vayishlach, puisqu'elle est là.
C'est pour toi, Marc Lipsky, oui. En 2013, que la présence d'un verset à tel ou tel endroit de la Torah est une preuve. Mais depuis quand on est une preuve de
Mais il m'a semblé moi, que tout ce texte était construit comme ça. Enfin, tout ce texte, tout celui-là.
C'est-à-dire ?
Avec des preuves. Disons qu'à tel endroit, on peut dire telle chose parce qu'à tel autre endroit, on figure tel verset.
Oui, mais ce ne sont pas les versets qui sont mis en question ici. C'est la place originelle du verset.
Oui.
Ce n'est pas la même chose. Le verset en tant que tel n'est pas remis en question.
C'est pourquoi il a été mis. D'après Rabbi Yehuda.
D'après Rabbi Yehuda, il est à sa place.
Voilà, il est à sa place, mais ça vient nous indiquer que le Issour, il a commencé maintenant.
Oui.
Rabbi disent non. Il a été indiqué là pour te dire le ta'am de la raison pourquoi on ne mange pas. Mais attention, le Issour, il commence à Matan Torah.
Exactement.
Donc, voilà, à moins que l'argument de Rabbi Yehuda ne soit pas sur la place. Il ne parle pas de la place, Rabbi Yehuda, d'après ce que tu as traduit. Il a un argument juste historique.
C'est sous-entendu dans ce qu'il dit.
Pourquoi
est-ce que le verset est juxtaposé à l'histoire de l'ange pour dire que c'est à cause de cette histoire que l'interdit est venu.
C'est à ce moment-là qu'il commence.
C'est quand même une affaire de place.
C'est tout ce qu'il dit. Il dit l'interdit est antérieur au don de la Torah. C'est tout ce qu'il dit.
Oui. N'est-ce pas ? Mais quel est le sous-entendu de son argument ? C'est bien de dire qu'il est juxtaposé à l'histoire qui a précédé, elle aussi, Matan Torah.
Oui, mais on ne va pas contredire un sous-entendu par un autre sous-entendu.
Mais c'est ce que je te dis. Ce n'est pas nécessairement une contradiction. C'est peut-être juste une volonté de la part des Chachamim de dire à Rabbi Yehuda, ce que tu me dis n'est pas une preuve. Parce qu'on peut dire autrement. On n'est pas non plus obligé de dire autrement. Mais on n'est pas obligé de dire comme tu dis, toi. Ça pourrait coller dans la lecture de la Mishnah. Alors regardez.
Je trouve que l'expression venir taf bim komo est très ambiguë parce que en fait, elle peut vouloir dire qu'il a été écrit à son endroit, c'est-à-dire à l'endroit où il devait être écrit, comme elle peut vouloir dire qu'il a été écrit à l'endroit où il a été écrit. D'ailleurs, de dire bon, l'endroit est bizarre, mais bon.
Absolument. Mais Rashi va en avoir une lecture en tout cas. Alors regardez, c'est en tout cas moi ce qui m'intéresse ce soir, c'est la lecture que Rashi fait. De cette opinion des Chachamim, en tout cas de cette réponse que les Chachamim font à Rabbi Yehuda en leur disant « En vérité, l'interdit a commencé à Matan Torah, mais il a été écrit à son endroit, je le traduis tel quel pour le moment. » Regardez la lecture que Rashi fait de cette phrase, il a été écrit à son endroit. Donc je prends Rashi sur la Mishnah, le dernier Rashi, qui a pour Dibour Amatril, Amroulo. Donc dans la colonne de gauche, Rashi dit la chose suivante. Pasugze, ce verset, Shiz Irualav Besinai, Nehema, par lequel ils ont été enjoints. Ou plutôt par lequel Dieu les a enjoints, sous-entendu de ne pas consommer du guidanaché, Bessinaï Nehemar a été dit au Sinaï. Jamais Dieu auparavant n'a interdit à qui que ce soit de manger du guidanaché. Veat Sinaï lo huzaru. Et jusqu'au Sinaï, ils n'ont pas été enjoints, Dieu n'a pas interdit le guidanaché. Et là, chez Nirtav Bimkomo, Leachar chez Nehemar Besinai, Vekatav Vesider Moshe et Atora, Katav Amikra Aze Alamase. mais il a été écrit à son endroit. C'est la phrase des Chachamim dans la Mishnah. Explique Rashi, Le'achar she'ne'emar be'Sinai, après qu'il ait été dit au Sinai, ve'katav ve'sider Moshe et la Torah, et que Moshe ait écrit et ordonnancé la Torah, katav amikra aze alamaase, il a écrit ce verset-là, juxtaposé à l'histoire du combat entre l'ange et Yaakov. Alken uzaru bnei Israël, achareken shelo yochlugid. Et le verset qui est là-bas dans Parashat Vayishlach que nous avons lu au début du cours est donc à lire ainsi. C'est pourquoi les bnei Israël seront enjoints dans le futur de ne pas consommer du guidanage. Voilà comment Rashi lit cette réponse que les Chachamim font à Rabbi Yehuda. Je reprends la phrase qui nous importe ici. Et là, chez Nirtav Bimkomo, seulement il a été écrit à son endroit, explique Rashi, voilà ce que ces mots des Chachamim veulent dire, les Achar chez Nehemar Besinai, après qu'il ait été dit au Sinaï. Ve katav ve sider Moshe et la Torah, et que Moshe ait écrit et ordonnancé la Torah, katav amikra azé alama azé. Il a écrit ce pasouk-là, ce verset, alama azé, littéralement sur l'histoire, c'est-à-dire juxtaposé à l'histoire de l'ange avec. Si on essaye de dire autrement ce que Rashi nous dit ici, c'est qu'en vérité, ce pasouk a été donné par Dieu à Moïse ailleurs. Ailleurs.
C'est quand même un tremblement de terre.
On y vient. Dit Rashi, Dieu a mis ce verset, je ne sais pas où, peut-être dans Parashat Shemini, avec les autres interdits alimentaires, les poissons permis interdits, les oiseaux permis interdits, et le guide à lâcher. Je ne sais pas où. Mais dit Rashi,
c'est Moshe qui a voulu le mettre là.
Lorsque Moshe a écrit, alors je savais qu'il l'avait écrit, il y a suffisamment de divrei Chazal qui le disent, mais qu'il l'a ordonnancé, alors là, c'est beaucoup plus novateur. Je ne connais pas un seul Dvar Chazal, un Midrash, une Gemara qui disent que Moshe a ordonnancé la Torah. Je peux me tromper. À ma connaissance, il n'y a pas de texte comme ça. Mais Rashi ici dit que Moshe l'a, oui, fait. Il a ordonnancé cette Torah de telle sorte qu'il a déraciné le verset de sa place originelle, là où Dieu l'avait mis, pour le mettre dans Parashat Vayishlach, à côté du Maasé, à côté de l'histoire du combat entre l'ange et Yaakov, pour nous en donner la raison. On va résumer Rashi. Moshe s'est fait son trip. Il a préféré voir le verset là-bas, et ben, il l'a mis là-bas.
C'est lui qui est messadère à la Torah.
Vous vous rendez compte de ce que ça signifie ? Et il a pris quoi comme autre liberté? Un des principes, des 13 principes de foi de Maïmonide, le 8e, me semble-t-il, est que nous devons croire absolument que ce que Moïse nous a rapporté est bien ce que Dieu lui a dit.
C'est hein
c'est voilà. Ça, c'est pas
c'est
marqué
ça.
Dans Maïmonide. Non,
c'est ça,
ça c'est pas marqué. Non, il a pas parlé d'ordre.
Voilà.
C'est vrai, il l'a dit. Il a pas dit là, mais il l'a dit.
Et d'ailleurs, on pourrait même dire que quand il y a le pchat, on dit Enneocha ou Mugdam Batora, ça peut peut-être se. Non ?
Ça, il y a beaucoup de discussions autour voilà. de ça. A priori, mais... c'est dans un même sujet, dit la
voilà. Mais d'après ce qu'il dit Rashi, si. On peut même le voir.
Là, voilà, ça serait vraiment l'extrapoler bon. De manière. très forte.
C'est même pas le même.
Mais rendez-vous compte. Ça veut dire que, voilà, Moshe, bon, bah, il a vu la Torah de Dieu, il a trouvé ça pas mal. Hein. C'était le prix Goncourt moins 1350. Mais il a dit, quand même, cette phrase-là, je suis un bon éditeur, je la mettrai plutôt là-bas. Et puis, bah, il l'a mis là-bas.
En plus, il y a un corollaire, ça veut dire que s'il avait placé cette phrase-là, là-bas, il y a un trou.
Parce que si je l'écris dans Parashat Shemini, il nous faudra un rachis pour l'expliquer, pourquoi.
J'ai jamais vu un rachis comme ça. Mais ici, en substance, c'est ce que dit Rachis sur la Mishnah. Vekata vesider Moshe et ta Torah. Moshe a ordonnancé la Torah, donc il a mis ce verset là-bas. Alors évidemment, vous allez regarder dans toutes les gmarotes modernes un peu pieuse, genre Art Scroll et compagnie, vous allez tous voir que, effectivement, c'est comme ça que c'est marqué, et Moshe l'a mis là-bas, et entre parenthèses, il y a marqué « sur ordre de Dieu », évidemment.
Ah,
hein,
trop facile.
Mais, pardon, c'est pas marqué dans Rashi. Rashi n'a jamais parlé d'un tel ordre.
C'est vrai.
Rashi dit « Vekatav vesider Moshe et Ator ». Alors, quand on pense qu'il y en a qui s'évertuent à faire des exégèses sur les petites couronnes qu'il y a au-dessus des lettres, sur la façon dont le verset est dit, sur la place du verset, et que là, on se rend compte que Moïse a pu prendre de réelles libertés avec le texte, il y a de quoi devenir fou. Qu'est-ce qu'il a pris d'autre comme liberté? Je vais vous citer un autre exemple. Dans Maseret Ktuvot d'Afioud, Amoud Al-Luf, je crois, il y a une discussion dans la Gemara très intéressante. Vous savez que dans la Torah, il y a un statut qui s'appelle le statut de Almana. C'est le statut de la femme veuve. Et la Gemara demande pourquoi est-ce qu'une veuve, une femme veuve, s'appelle Almana. Almana, c'est un mot qu'on trouve dans la Torah. Eh bien, la Gemara dit, c'est Almané. C'est du fait qu'on ne lui verse que 100 pièces... 112, lorsqu'on la divorce, dans la ktouva d'une veuve, c'est marqué 112. Alors que pour une jeune fille vierge, eh bien c'est marqué 212. Alors dit la Gemara, ça s'appelle Almana à cause de Mané. Mané, à cause de 100, des 100 pièces qu'on lui verse si jamais on la divorce. Alors la Gemara dit, mais attends un petit peu. La monnaie Mané n'avait pas cours à l'époque où la Torah a été écrite. Ça existait un mané. Comment tu peux me dire qu'un mot qui se trouve dans la Torah contient une notion qui ne va advenir que bien plus tard dans l'humanité? Et la Gemara pose la question en ces termes: est-ce que la Torah peut parler al-shem ha'atid, peut parler au nom du futur, au nom de quelque chose qui va advenir? Et la Gemara dit oui, c'est possible. Il y a d'autres exemples. Elle dit l'exemple d'un des fleuves qui sortait du Gan Eden. Vous savez qu'il y avait quatre fleuves, on voit dans le troisième pérec de Bereshit, au tout début de la Torah, qu'il y avait quatre fleuves qui sortaient du Gan Eden. Et le nom du troisième fleuve est le Chidekel. Et le verset nous dit que le Chidekel a Oler Kidmat Ashur et celui qui allait à l'est de Ashur. La Gemara dit... Mais Ashur, c'est une ville. Et les villes n'existaient pas. Voilà comment dit la Gemara dans ma série de Tout. Et elle prouve donc de là que la Torah peut parler au nom de ce qui va advenir. Tosfot sur place ne comprend pas la question de la Gemara. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi la Gemara s'étonne que le verset ait pu dire « Aoler Kidmat Ashur » que c'est un fleuve qui allait à l'est de Ashur. Dit Tosfot comme ça, mais au moment où Moshe a écrit la Torah, ça existait Ashur. Comme ça, dit Tosfot. Je ne vous dirai pas la réponse de Tosfot, ce n'est pas important ici. Mais ça veut dire que dans l'esprit de Tosfot, comme dans l'esprit de Rashi ici sur la Mishnah, il se pourrait, parce qu'il y a deux manières de lire Tosfot, mais il se pourrait que Moshe Rabbeinu, ça ne dérangerait pas Tosfot, que quand Moshe Rabbeinu a vu que Dieu lui demandait de marquer Chidekel, il ait dit, Oui, alors Hideken, oui, c'est celui qui va porte de la Villette.
C'est possible.
C'est possible. Ouais. Et donc, il l'a ajouté pour nous donner une précision géographique.
Alors qu'à l'époque, porte de la Villette n'existait pas.
Évidemment. Voilà. Mais à l'époque de Moshe, ça existait. Voilà, c'est ça. Donc, il s'est dit, ah oui, je vais vous indiquer où c'est.
Et en plus, Moshe vendait de la viande.
De la viande.
Oui, pour revenir à notre histoire de mère sceptique, à porte de la Villette.
Ah, n'est-ce pas ? Ça tombe bien. Ouais. Les abattoirs. Alors, on n'est pas obligé de lire Tosfot comme ça dans le Tour, parce qu'on peut aussi dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit d'écrire Kidmat Hashur en fonction du moment où il a donné la Torah. C'est vrai, on peut aussi dire ça. On peut.
Et il n'aurait pas été assez grand pour le mettre de lui-même à sa bonne place ?
Qui, Dieu ?
Oui.
Mais il ne voulait pas que ce soit là-bas.
Il voulait ou il ne voulait pas ?
Non, et lui, il a donné un interdit. On n'a pas le droit, toi et moi, de manger l'inertie asiatique.
D'accord, on n'a pas le droit, mais la question...
Il n'a pas dit pourquoi, Dieu.
On ne discute pas la question de savoir si on a le droit ou on n'a pas le droit. La question dont on discute, c'est de savoir si le verset est à sa bonne place. Si Dieu avait voulu que le verset soit à cette place-là, il l'aurait dit à il l'aurait fait, il l'aurait mis à cette place-là directement. Donc il est parfaitement superfétatoire de dire que Moshe l'a fait sur ordre de Dieu.
Ah ben ça, on est bien d'accord.
C'est un mauvais argument.
Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est Moshe qui a pris cette initiative.
C'est peut-être la marloquette, même peut-être entre Rabbi Yehuda et Rahamim, non ?
Mais Rabbi Yehuda, lui, il dit, il a été écrit depuis le départ ici.
Voilà, donc Dieu, il a dit de l'écrire là. Donc s'il a dit de l'écrire là, c'est peut-être parce que justement, ça a été interdit à partir
peut-être,
de cette période-là.
Peut-être.
Je ne sais pas.
Peut-être. Mais c'est ça qui est intéressant.
C'est peut-être Rachid qui fait tenir la marloquette sur ça, peut-être.
Mais c'est ça qui est intéressant dans la lecture que Rachid fait de l'opinion des Rahamim ici dans la Mishnah.
Qu'est-ce qui permet à Rachid d'avoir cette opinion-là ? Pourquoi est-ce qu'il choisit ce rang-là plutôt que celui de Rabbi Yehuda ?
Non, Rachid ne prend pas l'option. Il explique l'opinion des Rachamim. Il ne dit pas que ce sont les Rachamim qui ont raison. En l'occurrence, la halakha est comme Rachamim. Mais ce n'est pas ce que Rachid fait, ce n'est pas son boulot. Rachid n'est pas un possèque. Ici, Rachid te donne une lecture de l'argument des Rachamim. Mais ça ouvre des portes incroyables. Moi, quand j'ai fait cette Mishnah, que j'ai préparé juste quelques heures pour le cours que j'ai enregistré pour Académie il y a quelques semaines, je ne me doutais pas un instant de la boîte de Pandore que j'ouvrais. C'est incroyable, ce sujet. Incroyable. Mais je ne sais pas. Est-ce que vous savez, par exemple, que il existe une différence entre les Sifrei Torah de tout le monde et les Sifrei Torah yéménites ? Il y a une différence. Une différence. À la fin de Sefer Dvarim, lorsque le verset interdit à une juive de souche d'épouser un homme qui a eu les testicules écrasés, ça s'appelle un Petsoua Daka. Et oui, c'est une des halachot qui existe dans la Torah, un des 613 commandements. Et l'interdit pour un homme qui a eu les testicules écrasés ou molestés d'épouser une juive de souche. Il est obligé d'épouser une guillorette, une convertie. Eh bien, ce Petsoua Daka, ces œufs écrasés, s'écrivent Daka avec un He dans tous les Sifrei Torah, et Daka avec un Aleph dans le Sefer Torah yéménite. Par exemple. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu révélée ? Qu'est-ce qu'on fait de... Ça remet en question. Les mecs discutent sur les tagines, sur les couronnes qu'il y a au-dessus des lettres. Ils en font des interprétations. Mais s'il y a une lettre qui change, mais c'est quoi le véritable texte de la Torah ? C'est quoi le texte que Kadosh Baruch Hu a donné à Moshe ? Encore une fois, excuse-moi, le Rambam dit, c'est le huitième Ikar, dans les Shoshé Sri Ikarim, que si on ne croit pas que Moshe a rapporté tel quel, à la couronne près, ce que Dieu a dit, on est un hérétique, dit le Rambam. Et dans les Halachot Talmud Torah, il dit que n'importe quel Sefer Torah auquel il manque une lettre, ou auquel il y aurait une lettre en plus, est pasoul. C'est-à-dire qu'on n'est pas quitte d'avoir fait la mitzvah, de lire la Torah à l'intérieur. Donc, si il y a une différence de lettre,
Parashat Amalek, les Ashkenazim, ils vont dans les Dafka, dans les Batei Knessot Ashkenaziot, et les Sfaradim dans les trucs, parce que c'est une mitzvah mina Torah d'écouter le Sefer Torah sur la Parashat Amalek, si je me rappelle bien. Et là, t'es obligé d'aller suivre d'après ta coutume. C'est-à-dire, quelque part, genre un Sfarad qui va chez les Ashkenazes, il n'a pas fait le truc.
Ça, je ne suis pas d'accord, parce qu'on ne parle pas ici de calligraphie.
Peut-être c'est mieux alors.
Ou,
c'est mieux
de peut-être, faire. Peut-être, j'ai jamais vu ça, mais peut-être. Mais on ne parle pas ici de calligraphie, ou de cantillation, ou de manière de lire le texte. On parle de différence dans les lettres du texte.
Est-ce qu'on peut dire que les deux sont exacts en même temps, comme on dit « Shamor v'zachor v'dibur echad » C'est-à-dire de dire que d'ailleurs ça a un sens le fait que les deux existent, et de trouver un sens au fait que les deux graphies existent, comme si Dieu avait donné les deux, et que le fait qu'il y ait deux graphies est un sens.
À ce moment-là, quel est le sens pour la halakha de dire s'il y a un Sefer Torah auquel il manque une lettre, alors il n'est pas saoul? Non, parce que tu diras toujours, c'est Dieu qui a peut-être voulu qu'il manque cette lettre.
Non, là, c'est différent.
Ou pas.
Oui, mais là, on peut dire que pour l'exemple de Tzadaka, juste. Et dans ces cas-là, aucun des deux n'est pas saoul.
Ou alors seulement les Yéménites sont des hérétiques.
Ou tous les autres.
Vraisemblablement tous les autres aussi.
Ben vous voyez que ça ouvre quand même
bien
des
sûr,
portes.
Bien sûr, bien sûr.
Assez incroyable. Alors peut-être que ce que tu dis est juste pour ce qui est de Petsu Adaka. Le problème, c'est que il y a beaucoup d'autres exemples, mis à part celui-ci, qui peuvent poser problème. Et je voudrais vous montrer un autre de ces exemples, toujours dans le Sefer Bereshit, mais un petit peu plus haut. Alors, prenez avec moi, si vous voulez bien, le moment où Abraham meurt, donc à la fin de Parashat Chayei Sarah. Nous sommes, chapitre 25, Perek Kaf E, Pasuk He. Donc 25-5, Kaf E, He. Donc le contexte est vraiment les quelques moments qui précèdent le décès d'Abraham. Dit le verset, Vayiten Abraham et kol asher lo li Yitzhak. Et Abraham a donné tout ce qui était à lui à Yitzhak. Très bien. Verset Vav. Velivne apilakshim asher le Abraham. En revanche, pour les enfants des concubines qu'avait Abraham, Nathan Abraham Matanot, Abraham a donné des cadeaux. Bien. Alors, encore une fois, pour ce soir, du moins, le contexte importe peu. Mais Rashi va dire quelque chose sur ce mot pilakshim qui se trouve dans le Pasuk Vav, tout à fait intéressant. Donc je répète la traduction du verset. Abraham a donné tout ce qu'il possédait à Yitzhak. Il restait certainement un petit peu quelque chose. Rashi dit quoi d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. Velivne apilakshi ma chère les Abraham. Mais aux enfants des concubines qu'Abraham avait, des concubines au pluriel, pilakshim, eh bien Nathan Abraham Matanot, Abraham a donné des cadeaux. Très bien. Alors Rashi dit la chose suivante. Rashi, le premier Dibur HaMatril du Pasuk Vav, apilakshim, dit la chose suivante. Chaser Ktiv, c'est marqué de manière défective. Il manque une lettre dans le Sefer Torah à ce mot Pilakshim qui devrait être écrite si on écrivait comme on lit le mot en question. Dit Rashi, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Il devrait y avoir deux yud dans ce mot, un yud entre le p et le lamet, pi, lag, et un yud entre le shin et le mem, shin. Dit Rashi, il manque une lettre. Sous-entendu, le yud entre le shin et le mem, dans le Sefer Torah, n'est pas écrit. De sorte qu'on peut lire, non pas Pilakshim, mais Pilaksham. Ce qui fait dire à Rashi, Shelo Aïta et la Pilegesh Achat, car il n'y avait qu'une seule concubine, Iaga Iktura, qui est Agar, qui est Ketura. Alors la raison pour laquelle Rashi tient absolument à ce qu'il n'y ait eu qu'une seule concubine à Abraham, et que, en plus, cette concubine soit Agar, qui est la Ketura du verset, c'est une autre question. Ce qui importe ici, vous savez bien que Rashi n'écrit jamais rien de son propre chef. Ça n'existe pas. Rashi est un passeur. Ça n'est pas un commentateur. Il ne vient pas commenter le verset. Il ne vient pas dire ce qu'il a envie de dire, ce qui lui semble à propos de dire sur un verset. Il vient citer une parole antérieure à lui qui parle du verset en question. Il a un océan exégétique à sa disposition qui est constitué par toute la Gemara, tout le Zohar, tout le Midrash, voire des écrits plus tardifs qui sont quasiment de l'époque de Rashi même. Il cite des grammairiens comme Dounash ibn Ibrat, comme Menachem ben Sarouk, qui sont vraiment quelques années avant lui. Mais en tout cas, ce qui fait le génie de Rashi n'est pas son propos, encore une fois, il ne dit jamais rien, mais ce qui fait le génie de Rashi est le choix qu'il opère à travers cet océan exégétique à sa disposition. C'est ce choix-là qui est génial, et parfois sa façon de le travestir et de le rapporter, certes. Mais l'idée phare dans Rashi ne peut pas être née dans l'esprit de Rashi. Ça n'existe pas. Si Rashi n'a pas une source à ce qu'il dit, il n'a pas le droit de parler.
Dans la Torah.
Dans la Torah. Il faut savoir ça. Eh bien ici, la source de Rashi est un Midrash Rabba sur le verset en question, qui dit que, effectivement, c'est un Ktav Fraser, c'est un verset écrit de façon différente de la façon de le lire, ce qu'on appelle un Kriktiv. On le lit Pilakshim, quand on le lit à la Torah, il n'y a aucun doute là-dessus, mais on l'écrit dans la Torah, dit le Midrash, Pilaksham, avec un Yud au début, mais sans Yud à la fin, de sorte, dit le Midrash, qu'on peut lire Pilegesh Sham, c'est-à-dire la Pilegesh au singulier, la concubine qui était là-bas, c'est-à-dire à Be'er la Chayroï, dans le désert où Agar s'est trouvé, etc. Et que donc il s'agit bien de Agar. Donc tout va bien. Rashi a une source à son propos. C'est ce Midrash Rabba qui dit on ne n'écrit pas Pilagshim, mais Pilag Sham, de sorte qu'on peut lire le verset Pilegesh, une concubine au singulier. Cham qui était là-bas. Le problème qui se pose,
c'est que nous, on a un yud.
C'est que nous, on a un yud à la fin de Pilakshim. Et que vous allez ouvrir n'importe quel Sefer Torah au monde, aller dans une synagogue à New York, à Bombay ou à Marseille, où vous voulez, il y aura un yud entre eux. Le Shin est le même sophite de Pilakshim. Donc, toute la construction exégétique du Midrash, qui se base sur le fait qu'on lise Pilakshim, mais qu'on écrive Pilaksham, tombe. Le Midrash ne peut plus exister.
Ça veut dire que la Massorette a rectifié ?
On y vient, la Massorette. On y vient. J'y arrive tout de suite.
Juste pas si le mot.
J'y arrive tout de suite. Le Midrash dit Pilaksham. Or, dans tous les Sifrei Torah, ne serait-ce que dans les Chumashim que vous avez sous les yeux, c'est marqué Pilakshim. Ça veut dire que le Midrash s'est complètement planté.
Ça, c'est comme si le Sofer il avait dit il devrait y avoir un Yud, ben, je vais le mettre.
Ou alors, ça veut dire que le Midrash avait un Sefer Torah différent du nôtre.
Oui, bien sûr. Et nous, après, peut-être par le temps ou machin, Sefer, ou... mais c'est...
Vous vous rendez compte de
bien
ce
sûr,
qu'on dit.
Bien sûr.
Le Midrash avait un Sefer Torah différent du nôtre. Peut-être même Rashi. S'il se permet de rapporter le Midrash, c'est peut-être que lui, il a le même Sefer Torah.
Oui,
ou alors, il n'a pas le même, mais il parle au nom du Midrash. J'en sais rien.
Non,
mais ce serait plus probant de dire que s'il le rapporte, c'est qu'il a le même Sefer Torah que le Midrash.
Sûr, bien sûr.
Mais ça veut dire à tout le moins que le Midrash a un Sefer Torah différent du nôtre. Mais c'est fou. Et il y a quoi d'autre comme différence?
Il y a quoi d'autre?
Mais tout. Combien de constructions midrashiques sont faites sur ce qu'on appelle, ça on y vient aussi, des chaserot et yeterot. C'est-à-dire des mots qui sont défectifs ou pleins dans la Torah, C'est-à-dire qu'on lit d'une certaine manière, mais qu'on écrit d'une autre manière, ou vice-versa, etc. Il y a plein de midrashim qui sont construits sur des chaserot et yeterot. Il y a même un midrash qu'on a retrouvé à la Gniza du Caire, qui se trouve dans Otsara Midrashim, donc quelque chose qu'a glané Eisenstein, qui était un des grands pros des manuscrits un petit peu oubliés. Dans ce Otsara Midrashim, il y a un truc qui s'appelle Midrash Chaserot Veyeterot. Que des Midrashim, toute la Torah, systématiquement, avec que les mots d'effectif et plein. Mais et ça se base sur quel texte ?
En fait, une fois qu'on a joué avec un Rubik's Cube, on sait bien que lorsqu'on a bougé une case, on a forcément tout bougé. A fortiori dans un texte qui comporte autant de signes.
Bah dis-moi, la parole révélée, elle en prend un coup. Hein.
Oui.
Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève notre kippa, on va faire la fête ?
Non.
Je suis pas loin d'être d'accord avec vous.
Je vais te dire, c'est comme quand t'es une couchère, quand t'étudies une Gemara, et ben des fois t'arrives à des trucs. Et... Après, c'est pas que tu innoves, mais tu reviens peut-être à une compréhension plus profonde de ce qu'est peut-être croire en la Torah, croire en la. Je sais pas.
Sur une Gemara, c'est simple. T'as une lecture voilà. d'Amara, tu peux en avoir une autre. Voilà. C'est des hommes qui l'ont écrite, c'est des hommes qui l'interprètent, c'est des hommes qui le lisent. Très bien. Mais si on peut pas se baser sur un texte fiable, mais toute la Gemara elle saute. Ouais. Toute la Gemara elle est basée sur le fait que ici c'est écrit comme ça dans le Passouk, ici c'est écrit comme ça, mais si ça se trouve en fait c'est pas du tout écrit comme ça. C'est eux le Sefer Torah qu'ils avaient, mais c'est pas du tout écrit comme ça à la base. Et puis peut-être que Moshe en plus, il était un peu bourré ce jour-là, il s'est fait son kiff, il a rajouté quelque chose. T'en sais rien. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce texte ? Si on n'a pas...
Tous les passages problématiques qu'on a vus sont les seuls qui sont vraiment problématiques. On a quelques passages, on dit que c'est...
Il y a d'autres, il y a une dizaine de rachis comme ça, ouais. Où ils rapportent des midrashim qui sont basés sur des chaserot et hétérot qui n'existent pas dans le Massif Rétoire. Là, je vous ai montré un exemple, mais il y en a d'autres. D'accord. Il y en a d'autres. Alors c'est compliqué.
Non, ce n'est pas tout à fait compliqué, tu commences par faire la critique historique après.
Oui, mais si on veut éviter ça... Alors, je vais vous montrer un texte...
Des chiffres Torah des fois.
Je vais vous montrer un texte qui est un texte tout à fait intéressant. Qui est ici. Un texte du Riva, Rabbi Yehuda ben Rabbi Yoel Alevi, qui se trouve, qui est un texte rare, qui se trouve dans un livre qui est ici, que vous pouvez voir, qui s'appelle Tosfot Hachalem. Qu'est-ce que c'est que ce Tosfot Hachalem ? C'est toute une équipe d'érudits de Talmidei Chachamim israéliens qui ont parcouru le monde, toutes les bibliothèques, à la recherche des manuscrits hébraïques datant de l'époque des Baal et Tosfot, donc entre le 11e et le 13e siècle, et qui les ont ordonnés selon les versets de la Torah. C'est-à-dire que tout ce qu'ont écrit les Tosfot, possible et imaginable, concernant un verset de la Torah a été écrit à son endroit par ces gens-là. Et ici, ils ont retrouvé un manuscrit qu'on peut être qualifié de manuscrit totalement fiable, puisqu'il a été retrouvé dans maintes et maintes bibliothèques différentes, le même texte. Vous voyez à la fin du commentaire, alors je suis ici dans la page, il y a le verset en question sur lequel le commentaire va être, le commentaire à proprement parler, et puis en dessous, toutes les références de l'endroit où le commentaire a été trouvé. Voyons plus petit, vous avez... voyez la parenthèse, à la fin du commentaire, là où c'est écrit un peu plus petit, vous avez la référence de l'auteur, qui est le Riva, qui était donc un des Baal et Tosfot qui vivait en France au XIIIe siècle, Rabbi Yehuda ben Rabbi Yoel Alevi, et c'est marqué après Vavtet, avec une apostrophe, vous voyez
ouais.
Vavtet, c'est quoi ? Vatican. Ce manuscrit-là, il l'a chopé au Vatican, c'est le numéro 21. Voilà. Après, Bet Vav Dalot, c'est Budapest. Le Aleph, c'est Oxford. C'est un manuscrit qui a été retrouvé à tous ces différents endroits et qu'on ne trouve pas dans les commentaires classiques qu'on peut avoir sur le Chumash. Mais ici, le Riva dit quelque chose qui est cité par beaucoup de commentateurs en plus. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait attesté. Et il dit la chose suivante. Alors maintenant, prenons le texte du commentaire du Riva lui-même. Velibne Apilakshim, vous voyez juste après le Alf. Pirech Rashi, Rashi explique, Chaser Yud, il manque un Yud. Shelo Aïta et la Pilegesh Achat, Iagar Iktura. Car il n'y avait qu'une seule concubine, et non plusieurs, et c'était Agar qui est Ketura. C'est le commentaire de Rashi sur le Chumash. Regardez ce que dit le Riva. Ve caché les Rizkuni, et ce commentaire de Rashi est incompréhensible pour le Rizkuni, qui est un autre débat à l'Etosfot. Sha'are ou malé besfarim medouyakim ve alpi amasoret. Car dit le Rizkuni,
ils ont le même,
le mot est complet, c'est-à-dire avec les deux yud, dans les sfarim medouyakim, c'est-à-dire dans les sifrei Torah écrits consciencieusement, comme il faut. N'importe quel bon sifrei Torah a deux yud, comme ça vous jugez d'un bon sefer Torah, si jamais vous voulez l'essayer, eh bien vous regardez s'il y a deux yud à Pilakshim, s'il y en a deux, c'est bon. Ve'alpi à Masoret, et d'après la Masoret. Je laisse le mot Masoret tel quel comme ça, on y revient dans quelques petits instants. Donc le Rizkuni dit, mais ce Rashi, en vérité, pas Rashi, ce Midrash, comme je vous l'ai dit, est incompréhensible, puisque le mot est écrit de façon pleine dans tous les bons sifrei Torah. Un autre commentaire célèbre du Chumash qui s'appelle le Minchat Shai pose la même question. Il dit même dans les sifrei Torah tsarfatim, français, eh ben c'est écrit avec deux yud. Donc ça tombe mal pour Rashi, dont on disait qu'il avait peut-être un différent d'une. Et le Riva, après avoir rapporté le Rizkuni, dit quelque chose de tout à fait important, pour moi une phrase fondamentale. Il dit la chose suivante. Vous voyez, je saute quelques lignes. Masechet Nida, vous voyez, et dans Masechet Nida, Perek Bnot Koutim, dans le chapitre Bnot Koutim, donc c'est d'Aflamet Gimel Amoudalev dans Masechet Nida. Gabé Mishkav Tarton Ke Elyon, peu importe le sujet, à propos de l'impureté qui peut se transmettre à travers des couches de vêtements, de matelas, etc. Pirchou Atosfot, donc au détour d'une explication, c'est ça qui m'intéresse, les Tosfot ont expliqué, dit le Riva, des ouvriers des Talmud les achis à Masoret. Écoutez bien cette phrase. Que c'est l'habitude du Talmud, de la Gemara, que de contredire la Masoret. Cette phrase, elle est. Et il rapporte après une Gemara dans Maseret Shabbat où le texte dit explicitement qu'il contredit la Masoret. Alors en vérité, quand on va voir Tosfot sur place, c'est pas vrai. Tosfot ne dit pas ça. Donc ça veut dire que le Riva, qui était lui-même un Tosfot, a une autre version de Tosfot que la version qui a été retenue dans nos chaises. Mais ce qui compte, c'est la phrase qui résulte de son propos.
Oui, pas de sa faute.
Il dit Pirchou à Tosfot. Mais tu vas voir Tosfot là-bas, d'Aflamet Gimel dans Nida, il dit pas du tout ça. Mais, il dit pas non plus le contraire, il parle pas de ça. En tout cas, c'est la phrase du Riva qui est importante ici. Qu'il dit lui au nom de Tosfot dont il était. On peut probablement le croire. Il dit Ouhre des Talmud, les Achish Amasoret. C'est quand même une phrase très très forte. Parce qu'il dit c'est l'habitude de la Gemara. L'habitude. Pas rien l'habitude, de contredire la Masoret. Alors là, on en vient nécessairement à prendre quelques instants pour expliquer ce qu'est la Masoret. Jusqu'à l'époque de la Gemara, le texte de la Torah était écrit d'une traite, sans espace. Et dans le Sefer Torah même, je parle, il y a une équipe de scientifiques, érudits et croyants Dieu qui, dès la fin de la rédaction de la Mishnah et à l'époque des Géonim, c'est-à-dire entre le 6e et le 10e siècle, s'est préoccupé de mettre de l'ordre dans tout ça. de découper les mots correctement, avec des espaces entre les mots, de faire tout un travail de lecture critique pour quantiler le texte, qui n'existait pas auparavant, pour le vocaliser. Et ils nous ont légué tout un appareil de notes critiques pour expliquer comment ils en sont arrivés à établir le texte de façon définitive de cette façon-là. Cette Massorète, elle existe. Il y a aujourd'hui des tikkunim, des textes de la Torah qui sont imprimés, dans lesquels il y a en marge tout le travail des Massorètes. Ça existe. Et la trace la plus importante qui soit arrivée jusqu'à nous de ce travail des Massorètes est ce dont vous avez probablement entendu parler, qui est le Keter Aram Tzova, le manuscrit d'Alep, qui a donc été en Syrie depuis l'époque des Géonim, c'est-à-dire depuis le Xe siècle jusque la Deuxième Guerre mondiale. C'est un manuscrit qui a été perdu au moment d'événements qui ont eu lieu en Syrie après la Seconde Guerre mondiale, qui a été retrouvé par la suite, mais malheureusement de façon non complète, et qui est aujourd'hui au musée d'Israël à Jérusalem. Ce manuscrit a toujours été considéré comme le texte le plus fidèle au travail des Massorètes sur le texte de la Torah. À tel point qu'on a des traces de courriers envoyés du monde entier à Alep en Syrie pour demander comment il fallait écrire ou lire tel ou tel mot, etc. Il y a énormément de responsas écrits à la communauté d'Alep pour demander « qu'est-ce que vous avez, vous ?» C'était vraiment la référence. Et aujourd'hui, beaucoup de Tanakh qui sont publiés, notamment le Tanakh Koren, qui est reconnu comme étant le Tanakh le plus consciencieux, se base aussi sur le Keter Aram Tzova. Donc le travail des Massorètes, c'est le travail de ce groupe d'individus étalés sur peu ou prou 4 siècles, entre le 6e et le 10e, qui ont ramassé toutes leurs connaissances, comparé, étudié et établit une version qu'on pourrait dire définitive du texte de la Torah. Ça, c'est la Massorète. C'est ce qui résulte de ce travail-là. Pour la petite histoire, l'un des derniers Massorètes était Rabbi Asher ben Aharon, me semble-t-il, dont beaucoup disent qu'il était karaïte. Qui est caustique, c'est un paradoxe ironique de l'histoire juive, qui ferait que nous, pharisiens, on se base pour notre travail exégétique sur un texte établi en vérité par un karaïte, mais ça c'est juste pour la petite histoire. Ce qui est certain, c'est que la Massorète est le travail de référence sur lequel on se base. Mais dit le Riva, c'est Ouré des Talmud. C'est l'habitude de la Gemara que de contredire la Massorète, que de contredire ce travail-là, cette édition définitive du texte de la Torah sur laquelle se basent toutes les éditions que nous avons aujourd'hui. Mais je reviendrai un tout petit peu plus tard, si vous permettez, sur cette phrase du Riva. Avant cela, je voudrais voir avec vous un autre texte fondamental du Talmud concernant ce sujet de Chaserot ou Yeterot. Probablement le texte le plus important sur le sujet, qui se trouve dans Maseret Kiddushin. Et alors là, accrochez-vous, parce que c'est vraiment un texte qui dépote. Voilà ce que dit le Talmud dans Kiddushin. Alors, ça commence, donc nous sommes d'Af Lamed Amoud Aleph, page 30a, dans Maseret Kiddushin, dans le premier chapitre du traité Kiddushin. À la troisième ligne large, l'avant-dernier mot de la ligne est l'Efikar. Donc à la troisième ligne large, plutôt en bas de la page. L'avant-dernier mot de la ligne, l'Efikar. C'est là que commence notre aventure.
Combien, pardon, juste avant la fin, combien de...
Trois lignes, troisième ligne large. Donc,
ouais.
Troisième ligne large, donc on est à peu près une quinzaine de lignes avant la fin.
D'accord.
L'Efikar, l'avant-dernier mot de la ligne. Oui, il y a une partie un peu grisée sur le côté gauche, c'est là que ça commence. L'Efikar, c'est pourquoi, dit la Gemara, Nikreu Rishonim Sofri. Les Rishonim, les premiers sages de l'histoire, s'appelaient des Sofrim. Comme dit le verset dans le livre des Chroniques, dans Divrei Hayamim, Umishpechot Sofrim, Yoshvei Yahabetz, on les appelle des Sofrim, c'est Chachamim. Demande la Gemara pourquoi. Et elle dit, Chez Ayu Sofrim, Kol Arotiyot Shebato. Parce qu'ils comptaient, 1, 2, 3, 4, toutes les lettres de la Torah. C'était des gens qui comptaient, qui comptabilisaient les lettres de la Torah, dit la Gemara. Par exemple, chez Ayu Omrim, il disait Vav de Gachon, le Vav du mot Gachon, qui est un mot qu'on retrouve dans Parashat Shmini, Kol Oler al Gachon, à propos des Shratim. Tout celui qui va sur le ventre, étamé, etc. Eh bien, le vav de ce mot Gachon, qui se trouve donc au milieu du livre de Lévitique, de Vaïkra, Chetzian shel otiyot shel Sefer Torah. C'est la moitié des lettres du Sefer Torah. Très bien. L'abréviation, Samurtav, c'est Sefer Torah. Donc, disait ces Sofrim, ces gens qui comptaient sans cesse, eh bien, le Vav de Gachon, ils ont compté les lettres de la Torah, ce Vav de ce mot Gachon est la lettre du milieu du Sefer Torah. Pour la petite histoire, si on fait le compte aujourd'hui des lettres de la Torah, c'est aussi un Vav qui est la lettre du milieu, mais un vav qui est dans le pasouk Asher Hu, là, le vav de ce Hu, qui n'est autre que trois chapitres plus haut.
Ah bon, trois chapitres.
Perek Ret, et pas Perek Yudalef.
Ah ouais.
Ça fait beaucoup, hein.
Ces gens qui ne savaient pas compter, c'est
ça. Ça va même plus loin que...
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
On retourne avec.
Et pis que ça, la Maseret Sofrim, donc un des traités mineurs de la Mishnah, qui se trouve à la fin du traité Avodah Zara, la Maseret Sofrim dit que le Vav de Gachon, du fait qu'il est la lettre du milieu de la Torah, doit être rabâti. Halachiquement, hein, quand un sofer qui écrit le Sefer Torah doit écrire le Vav de Gachon plus grand que les autres lettres. Parce qu'il est la lettre du milieu de la Torah, dit Maseret Sofrim, en se basant sur cette Gemara. Or, c'est complètement faux. C'est pas le vav du milieu. Mais c'est pas un mot avant. C'est trois chapitres avant. Ça veut dire. J'ose même pas dire ce que ça veut dire.
On peut dire. On peut dire ce que nous on conclut sans.
Je plaisante. On va dire, mais je voudrais finir la Gemara d'abord. Donc il disait, c'est Sofrim, entre autres, le vav de Gachon et le vav du milieu des lettres de l'autre. Darosh d'Arash. Le mot Darosh d'Arash, qui est dans Darosh d'Arash Moshe, Chetzian shel Tevot, c'est la moitié des mots de la Torah. Bien. Vehid Galach, le pasouk Vehid Galach va être un étek lo yegaleach, chez le psukim. Ça, c'est le milieu des versets. Ok, très bien. Ils s'amusaient à compter tout le temps. C'était leur plaisir. Et pareil pour les Tehilim. Yechar Semena Chazir Miyahar, le hayin du mot Yahar, Chetian Shel Tehilim. C'est le milieu du Sefer Tehilim. Veurachum Yechaper Avon, Chetio di Psukim, c'est le milieu des Psukim. Etc. Alors, Bahé Rav Yosef, il y a un monsieur qui s'appelait Rav Yosef qui est venu et qui a demandé. Il a demandé. Vav de Gachon, le Vav de ce Gachon dont tu m'as dit qu'il était le milieu des lettres de la Torah. Mehaïgisa ou Mehaïgisa? Il est de ce côté ou de ce côté? Sous-entendu, le compte qu'ils avaient fait établissait un nombre pair de lettres, qui fait que, forcément, il n'y a pas de milieu absolu, et Rabbi Yosef a demandé, il est de ce côté-là, le Vav, ou il est de ce côté-là? Pour la petite histoire, évidemment, aujourd'hui, le nombre de lettres qu'on a dans la Torah est impair. Ce qui veut dire que la Gemara, la question de Rabbi Yosef n'a plus de sens. Ça, c'est aussi pour la petite histoire. En tout cas, à l'époque, le Sefer Torah qu'ils avaient avait un nombre de lettres pair, sinon la question n'a pas lieu d'être. Et donc, Rabbi Yosef demande, de quel côté est ce Vav? Amarlé, il lui a répondu, le Yahavetz corrige en disant que c'est Abayé qui lui a répondu. Il ne corrige pas, il dit que c'est Abayé qui lui a répondu. C'est très simple. Tu veux savoir de quel côté il est. Naté Sefer Torah, qu'on amène un Sefer Torah, Ve'im Nin Ou, et on va compter. Ou plutôt, et je vais les compter. On va traduire bien comme il faut. Il dit, il n'y a pas 36 façons de faire. Tu me demandes de quel côté il est, je vais compter les lettres de la Torah, puis je vais te dire. Mi lohama rabba barbachana. Est-ce que rabba barbachana n'a-t-il pas dit, continue de dire à Bayar Rav Yosef, Lozazu Misha Machéviou Sefer Torah ou Menaoum, que dans un cas semblable, on ne doit pas bouger de là jusqu'à ce qu'on ait apporté un Sefer Torah et qu'on compte. C'est la façon de faire. Donc dit Abaye à Yosef, on va faire comme ça. Qu'on apporte un Sefer Torah. Et qu'est-ce que Rav Yosef répond à Abaye? À Marley, il lui a répondu, Inu Bekie Bechaserot Veterot. Eux, les Sofrim, ils étaient connaisseurs dans les mots défectifs et les mots pleins, dans les Chaserot et Yeterot. Anan, nous, Lo, Beki, Inan, on n'y connaît plus rien. Voilà ce que Rabbi Yosef répond à Avayé. Ça veut dire qu'il lui dit, ne t'embête pas à faire venir un Sefer Torah. De toute façon, aujourd'hui, on ne sait plus les écrire, ça ne sert à rien de compter. Vous vous rendez compte de ce qu'il lui répond? C'est un Amora de l'époque de la Gemara. Il dit déjà à l'époque de la Gemara, on n'y connaît plus rien, on ne sait plus les écrire. À tel point que ça ne sert à rien d'en apporter. De toute façon, on ne peut rien en faire. T'auras beau compter, si ça se trouve, il a été mal écrit, vu qu'on n'y connaît plus rien. Donc il lui dit, laisse tomber. Ça sert à rien de l'amener.
Ça se trouve, il y a un Vav en plus, un Yud en plus, on sait pas.
Ça se trouve, il y en a 50 en plus. 3 chapitres de différence. Ça ferait 6 chapitres de Chaserot et Yeterot pour que la moitié, ça soit 3 chapitres de différence. On va où comme ça? Et alors? Vous n'imaginez pas la littérature halakhique qui découle de cette assertion de Rav Yosef. C'est un gouffre sans fin. Par exemple, je vous donne un seul exemple. Le Chagas Arié, Rabbi Ariel Ginsburg, qui était durant les 30 ou 40 dernières années de sa vie, le Rav de la communauté de Metz. Là-bas, à Metz, il était au fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, à Metz, c'est idolâtré. Le chat Gattarié, c'est...
Pas au début, quand il est arrivé.
Non.
Au début, notre trop vieux.
Au début, exactement, tu as vu, j'ai dit ça. Magnifique, la dracha qu'il a fait à la choule, par rapport à ça, c'est extraordinaire. En tout cas, le chat Gattarié dit dans ses shoots, dans ses responsas, Siman Lamenvav, donc le responsa 36. Il dit, aujourd'hui, il n'y a plus aucune mitzvah d'écrire un Sefer Torah, aucune mitzvah d'Eoraïta, de la Torah, d'écrire un Sefer Torah. Pourquoi ? Rabbi Yosef, parce qu'on ne connaît plus les Chaserot et Yedirot. Il dit, texto, je suis là, je regardais avant que vous n'arriviez. Il dit, il n'y a plus aucune mitzvah d'Eoraïta aujourd'hui d'écrire un Sefer Torah parce qu'on ne connaît plus les Chaserot et Yedirot.
Ça nous fait un deuxième cas de caducité.
Il n'y a même peut-être même pas une mitzvah de l'embrasser.
Bien sûr. Hein ?
Il n'y a même peut-être même pas une mitzvah de l'embrasser alors.
Je sais pas si c'est une mitzvah d'embrasser. Je ne sais pas comment c'est une mitzvah d'embrasser. C'est surtout...
Non, il y a tout.
Il y a pas oui, parce qu'il y a quand même des.
Il y a des tas, y a des tas de halakhot sur l'honneur du haut Sefer Torah. L'embrasser, je ne sais pas si ça en fait partie. Mais on pourrait se poser la question. Le Khatam Sofer dit dans ses responsas qu'il n'y a aujourd'hui. Entendu à l'époque, il y en avait une, ce que j'ignorais, plus à faire de bracha al ktivat sefer Torah. Il existait une bénédiction quand on écrivait un sefer Torah, al ktivat sefer Torah, sur le fait d'écrire un sefer Torah. Dit le Khatam Sofer, aujourd'hui on n'a plus le droit de réciter cette bénédiction.
Donc d'après eux, c'est pas shoot que le sefer Torah qu'on a aujourd'hui, c'est plus le sefer Torah d'avant.
Et pire que ça. Je vais vous montrer maintenant, parce que ça encore, tu peux me dire, c'est des décisionnaires, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Je vais vous montrer le Shulchan Aruch. Regardez ce qui est marqué là-bas, dans le Shulchan Aruch. Vous l'avez ici.
Oui. Pourquoi est-ce que vous pouvez donner bien aimé, ce qui est quand même bien conservé à l'heure. Il nous dit que malgré tout, la loi, c'est la loi.
Parce qu'il a lu ça.
C'est juste. Ouais. Maïmonide dit dans les Ilchot, je crois que c'est dans les Ilchot Malachim, il dit que s'il manque une lettre à un Sefer Torah, il n'est pas sourd. Je ne sais pas ce qu'il fait de cette lettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais peut-être que cette question va amener finalement une espèce de réponse à toute cette problématique. J'y reviens. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que cette réponse de Rav Yosef a des implications qui vont bien au-delà de la théorie, puisque très concrètement, il y a des conséquences halakhiques, je vous en ai cité deux, à cette parole prononcée par Rav Yosef. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus, on n'est plus baki dans les chaserot et yeterot. Alors, le sujet du Shulchan Aruch que je vous montre maintenant, et le suivant, je ne voulais pas copier, mais c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de lire la Torah à la synagogue Shabbat midi et qu'on se rend compte qu'il y a une faute dans le Sefer Torah ? Alors, on lit, il y a une faute. Ça fait que le Sefer Torah est pas sous. On l'a dit. Alors, dit le Shulchan Aruch, c'est très simple. Tu vas prendre un autre Sefer Torah dans le Echal, tu le mets à la place et tu reprends là où tu t'es arrêté. Comme ça, et posek le Shulchan Aruch, ici, Siman Koufmem Gimel, Seif Dalot, dans Orachai. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, donc le décisionnaire Ashkenaz, qui a fait ses agaot, ses notes sur le Shulchan Aruch, dit comme ça. C'est le texte que vous avez sous les yeux. Donc il commence sur la page de droite, la première ligne, juste après la parenthèse. Veha de motziin acheret. Vous l'avez ? Et dit Rabbi Moshe Isserles. Ce que le Mechaber a dit, ce que Rabbi Yosef Karo a dit dans le Shulchan Aruch, qu'on doit en sortir un autre, Sefer Torah, si jamais on y trouve une faute dans celui dans lequel on était en train de lire. Dafka, c'est seulement, dit-il, chez Nimtsa Taout Gamour, si on a trouvé une vraie faute. Aval Mishum Chaserot Veyeterot. Mais si ce que tu trouves dans le Sefer Torah est une faute qui pourrait dépendre d'une dracha sur un mot défectif ou plein,
un yud ou un vav, c'est ça, hein?
Par exemple, le yud de Pilakshim. En le otzi acheret, dit le Rama, il est posek la halacha comme ça, on ne sort pas un autre Sefer Torah, on continue à lire dans le même. Pourquoi ? Chez en sifre Torah, chez l'anou medou yakim kolkach, parce que nos sifre Torah, dit-il, ne sont pas suffisamment précis, chez Nehema, pour qu'on puisse dire, chez Acheret yeyoter kacher, que l'autre sera plus kacher que celui dans lequel je suis en train de lire. Voilà ce que dit le Rama dans le Shulchan Aruch. Il dit, tu en sors un autre seulement si tu as trouvé une vraie faute. Je sais pas moi. Au lieu d'un kouf, il y a un kaf, une vraie faute. Il y a un mot en plus, un mot en moins. Mais, si tu as trouvé une faute qui dépend d'un chasser yoter, par exemple, dans le Sefer Torah que tu lis à la synagogue, il n'y a pas le deuxième yud de Pilakshim, eh ben, tu continues à lire. C'est pas un Sefer Torah pasoul. Ah, d'après la Massorette, il y a deux yuds à ce Pilakshim. Dis le Rama, si c'est un problème de chasserot et yeterot, il n'est pas pasoul. Tu continues dans le même, parce que ça ne sert à rien d'aller en chercher un autre. Qui te dit qu'il sera meilleur que celui-là? Vu, pardon,
moins bon en réalité.
Peut-être.
Général, peut-être dans l'autre. Et...
Vu, dit-il, qu'on ne sait plus les écrire. Et Rav Moshe Feinstein dit dans Yigot Moshe que ce Rama se base sur la Gemara de Kiddushin pour fixer la halakha comme ça, de cette parole de Rav Yosef, Anan, Lobekinan. Nous, on n'y connaît plus rien.
Et d'où ça fait un millénaire que potentiellement on dit des conneries.
Et voilà.
C'est bon.
Tu vas peut-être rajouter parce qu'on lisait Pilikshim, et comme la vraie prononciation c'était Pilikshim, Pilakshim, donc on a dit bon, vaut mieux peut-être
mettre un yud. Comme
c'est, le... c'est des trucs comme ça.
La Massorette fait... n'a aucun. Il n'y a aucun pas, doute que la Massorette dit qu'il faut deux yuds à Pilakshim. Aucun doute. Mais le Midrash, lui, il a une autre version que la Massorette. Oui.
Donc le Midrash, oui. Il est vrai. Mais nous, tout... on a peut-être rajouté un yud par.
Cher monsieur, tout est vrai.
Oui, non, mais c'est
mais,
ça. Bon.
Mais voilà, vous avez maintenant. Alors, je prétends pas ce soir faire la liste exhaustive des textes autour du sujet. Je vous l'ai dit, la littérature halakhique est extrêmement abondante sur ce sujet de Chaserot et Yeterot. La littérature halakhique qui découle de cette Gemara dans Kiddushin est immense.
D'après ce qu'il avait dit le Rav Goldschmidt, je crois, la dernière fois, le Gaon. Il y a marqué dans, je crois que c'est dans Baba Batra, je ne sais plus dans quel Gemara, par rapport aux 8 derniers versets dans Dvarim, qui disent comment il y a marqué Adayom Azé sur le lac Vira de Moshe. Ils disent finalement, ce n'est pas Moshe qui a écrit, c'est Yehoshua. Et le Gaon, il dit attention, c'était écrit déjà avant, mais comme les lettres étaient collées les unes aux autres, c'est nous après qu'on l'a fait d'une façon qu'on puisse lire le lire. Bon,
mais
en tout cas.
Mais vous voyez. Vous voyez
il y a cette
chose-là
que le Sefer Torah, il était serré avant, quoi, c'est ça.
Mais vous voyez, ça c'est sûr, c'est comme ça que c'était avant les Massorettes. La preuve, c'est ce Gaon que vous citez. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le Gaon, qui est loin d'être le dernier des imbéciles, il tient absolument à ce que les choses aient été formalisées. Or, je reprends la phrase du Riva, il dit... des Talmud les riches à Massorette. Vous avez compris maintenant ce qu'est la Massorette. Vous voyez ici les textes, vous avez sous les yeux maintenant les textes que tout le monde peut avoir sous les yeux, en tout cas les textes de base concernant ce sujet. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Des Talmud les riches à Massorette. Ça veut dire que la Gemara, il lui arrive fréquemment, il lui arrive habituellement de contredire le travail des Massorettes, c'est-à-dire de faire tout un travail qui peut amener même à des conclusions halakhiques, qui est différent du texte de la Torah sur lequel on se base, qui découle du travail des maçonnettes. Mais c'est on ne sait plus où donner de la tête.
Le travail des maçonnettes, c'est quand exactement?
Entre le 6e et le 10e.
Mais la Gemara, elle est d'avant.
Je dis, c'est à partir de la fin de la rédaction de la Gemara.
Oui.
Mais je ne dis pas que c'est un problème chronologique. Il n'y a pas de problème. Il y a pas d'anachronisme ici.
Ah oui.
Mais si le Talmud fait ça, si les Baal et Tosfot qui sont après El Talmud et la Massorette ont pu dire une phrase comme ça, dire que le Talmud contredit souvent la Massorette, ça veut dire qu'on peut sans problème, pour nos travaux exégétiques, et y compris pour fixer la halakha, tachlas, concrètement, on peut se baser sur autre chose que sur ce travail des Massorettes.
Oui.
Mais ok, alors on peut réinventer totalement le Shulchan Aruch.
Non, parce qu'on suit quand même le Talmud au moins.
Ok, qui lui ne suit pas la Massorette, puis j'ai trouvé un Zohar qui lui ne suit pas le Talmud, puis...
Moi, un Zohar pour fixer la halakha.
Hein? Ah, ça peut arriver, bien sûr. Ça peut arriver, ça dépend. C'est un Beth Yosef célèbre au début de Rav Chaim. Si ça ne contredit pas le passage du Talmud, on peut.
Oui,
ça contredit. D'accord, alors il se peut que le Zohar contredise lui la Massorette, etc., etc.
On peut regarder ça.
Bien sûr, ouais, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, en vérité, je vous propose de dire la chose suivante. Si vous avez encore 5 minutes, ça vaut la peine, parce que je vais conclure en vérité. Après, on pourra en parler, mais je vais quand même dire un petit peu mon impression. La Massorette, c'est la norme. C'est la norme. Il faut une norme. Si la norme n'est pas la mort, la norme, il n'y a plus de norme. On a besoin d'un travail établi de façon critique et consciencieuse sur lequel se baser pour travailler. Il faut une norme. Mais cette norme n'est pas à appréhender de façon absolue. Il y a des fois des nécessités de sortir de cette norme. À condition d'honnêteté, d'exigence et de volonté de service divin, il existe une possibilité de s'approprier le texte de la Torah, « Lo bashamayim id ilag marlo bamitia », d'humaniser ce texte-là en sortant, parfois, de la norme en question. Il n'y a pas de lecture absolutiste. Le judaïsme n'est pas une religion absolutiste. Il y a des religions pour lesquelles on va déclarer une guerre sainte si on sort de la norme. Chez nous, non seulement on n'en déclenchera pas, mais on peut même se poser la question de savoir si ce n'est pas souhaité. Ouhre des Talmud la Achish Amasoret. Le Talmud, il lui arrive de contredire la Masoret. Le Talmud, c'est ce qui est vivant, c'est ce qui a permis au peuple juif cette pérennité à travers les âges. C'est ce qu'il fait vivre, cette dialectique Talmud. Il existe un commentaire très intéressant sur cette phrase de Rav Yosef, Anan Lobaki Inan, qui se trouve dans la Shita Mekoubetset sur Maseret Tuvot Daf E, et qui dit la chose suivante. Dit la Shita Mekoubetset, ce que... Je crois qu'il faut ouvrir un monsieur parce qu'il a quelque chose à chercher. Dit la Shita Mekoubetset, ce que Rav Yosef a répondu « Eux, ils savent, nous ne savons pas » n'est pas une question temporelle, mais une question spatiale. C'est-à-dire que eux, ce ne sont pas les Sofrim, et nous les Amoraïm, dit la Shita Mekoubetset. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre les paroles de Rav Yosef. Mais eux, c'est en Israël, et nous, c'est en Babylone. D'après la Shita Mekoubetset, la réponse que Rabbi Yosef fait à Abaye en lui disant « ça sert à rien d'apporter un Sefer Torah, on ne sait plus les écrire », ce qu'il veut lui dire, c'est « on ne sait plus les écrire, nous, en Babylonie ». Mais, en Eretz Israël, ils savent toujours les écrire. D'ailleurs, la Gemara dit ailleurs, me semble-t-il dans Maseret Sota, que Rabbi Meir, qui était en Israël, était baki dans les Chaserot et Yeterot. Donc ça pourrait venir à l'appui de cette Shita Mekoubetset. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme, le fait de savoir écrire le Sefer Torah de façon absolue, existe en Eretz Israël.
À l'époque.
Même maintenant, peut-être. Mais que nous, en Babylonie, on n'y connaît plus rien. Or, vous savez bien qu'il existe deux Talmuds.
C'est peut-être la galoute.
Un Talmud Yerushalmi et un Talmud Babylonie. Il faudrait certes mieux étudier le Talmud Yerushalmi. Mais le fait est que aujourd'hui, c'est le Talmud Bavli qui est étudié. Et c'est comme ça depuis des siècles. C'est le Talmud de Babylone qui est celui où la dialectique est présente, qui est étudiée, qui fait vivre l'étude au sein du peuple juif, étude qui fait vivre le peuple juif lui-même. Quelle est la différence entre les deux Talmuds? C'est que le Talmud Bavli est justement constitué de cette dialectique fondamentale autour des lois juives. Alors que le Talmud de Jérusalem, ce ne sont pas des Mishnayot, mais des Halachot. C'est une liste de lois qui ne sont pas discutées, une liste de lois et d'opinions. Comme ça est constitué le Talmud de Jérusalem. Il y a des traités, comme dans le Talmud de Babylone, mais après les traités, il n'y a pas de Mishnayot. Il n'y a pas d'enseignement, il y a des halachot, des choses absolues. Or, c'est ce Talmud que nous n'étudions pas. Parce que, je dirais, il est fort possible que ce soit, donc, suite à l'exil, même la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme on voit encore une fois dans cette barade de Baba Metzia, avec l'Oba Shamayimi, Daf Nun Tet, que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y ait cette appropriation du texte originel absolu par l'humain, cette humanisation du texte, qui ne peut passer que par une dialectique qui nécessite parfois, encore une fois, avec une façon de faire, mais qui nécessite parfois de sortir de la norme. C'est ça, en vérité, qui rend le texte de la Torah lui-même pérenne.
C'est-à-dire quelque part, Dieu, la Torah de Dieu s'adapte quelque part, sans, faut pas que ce soit des rajouts personnels ou comme on veut, mais quelque part, elle s'adapte à la galoute et à la façon de... C'est un peu ça,
non ? Je sais pas si ça s'adapte. C'est même peut-être très positif, tout ça. Et finalement, c'est ça que la galoute nous a apporté. De comprendre comment s'approprier, comment apprivoiser le texte en sortant parfois de la norme pour revenir peut-être après à un certain absolu, mais dans lequel on pourra entrer en ayant eu l'expérience de cette humanisation-là. Et je finirai en disant qu'à mon avis, ça n'est pas anodin si, dans la Mishnah, c'est que le texte le plus ancien qu'on ait à notre disposition pour évoquer ce problème-là dont on parle aujourd'hui, c'est une Mishnah dans Maseret Roulin, celle qu'on a vue, la Machloket, entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Il n'est probablement pas anodin que toute cette problématique de la véracité du texte biblique soit née dans le sujet de Guy d'Anaché. Dans ce sujet dont le Talmud dit dans Maseret Sanhedrin dans Perek Arba Amitot que c'est la seule halakha, c'est la seule, qui a été dite avant le Sinaï et jamais répétée après. Il y a d'autres halakhot qui ont été dites avant le Sinaï, par exemple la Brit Mila, qui a été dit à Abraham, plusieurs. Bon, Yiboum, c'est les commentaires qui disent. Mais dans le Passouk lui-même, il y a la Brit Mila, qui a été ordonnée par Dieu à Abraham. Elle est répétée après au Sinaï dans Parashat Tazria. Bayom Hashmini, Yimol, Bessarov, Lato. tout est répété. Tout ce qui a été donné avant le Sinaï, au Avot, est répété après. Dit la Gemara dans Maseret Sanhedrin, le guide Anaché est le seul qui n'a jamais été répété lorsqu'il a été donné avant le don de la Torah. Eh bien, ce n'est pas anodin, à mon avis, si cette problématique, encore une fois, de la véracité du texte biblique, naît dans le sujet du Nersiatik, dans le sujet du guide Anaché. Parce que, en vérité, à l'instar de la Brit Mila, justement, où, lorsqu'on pourrait croire que pour qu'un être soit parfait, il soit complet, Akadosh Baruch Hu dit non. Pour qu'un être soit parfait, il faut qu'il soit en situation de manque. Il faut lui retirer quelque chose. C'est à cette condition qu'il peut intégrer l'alliance entre Dieu et les Bnei Israël. C'est pareil pour le guide Anaché. Pour que un animal soit consommable, il faut impérativement lui retirer quelque chose. Tel qu'il est créé par Dieu, il n'est pas parfait. Il n'est pas consommable. C'est uniquement après lui avoir retiré ce nerf qu'on le rend propre à la consommation, c'est-à-dire qu'on peut s'en nourrir. Et je dirais, pour conclure, qu'il en va de même du texte de la Torah. Que la condition pour pouvoir s'en nourrir, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir vivre par elle, c'est que parfois, le peuple juif et les plus éminents de ses représentants sachent lui retirer quelque chose. Un petit yud, par exemple. Et que c'est la condition...
Un petit ou rajouter.
Et que c'est la condition pour que, dans cette lecture non absolue des choses et du texte, on puisse continuer, nous, à travers les vicissitudes de l'histoire juive, à se nourrir de cette Torah qui fait que nous sommes qui nous sommes. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci. 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 Bonne soirée. Bonsoir.